Alors, moi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse, au chapitre 3. Alors, pour ceux qui connaissent leur Bible, Apocalypse, chapitre 3, vous vous dites sur quoi est-ce qu'il va prêcher? Vous savez à peu près sur quoi je vais prêcher. Et on va lire des versets 14 au chapitre 22. Seigneur, oui, nous voulons te prier que ta parole nous parle ce matin, que nous soyons obéissants, que nous soyons attentifs, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté et non pas notre volonté. Dans le nom de Christ. Amen. Alors, tiens, je vais vous embêter juste un petit peu. Juste avant ça, on va lire dans Jacques. J'ai hésité un peu, mais comme ça, vous pouvez garder un doigt dans l'Épître, vous gardez un doigt dans l'Apocalypse, on va lire dans Jacques. Puis on va lire le chapitre 4, puisque c'est un petit chapitre. Vous pouvez prier pour Christina et que vraiment on puisse réussir à tous s'organiser pour être tous ensemble la prochaine fois. Je ne sais pas qu'elle est malade ou autre, mais on a besoin d'être vraiment comme le chariot d'Ézéchiel et de réussir à mettre tout le monde en route. Si matériellement vous pouvez prier parce que je suis en train de. Enfin, j'essaye de remettre en ordre de marche une voiture qui nous aidera bien. Donc ça aussi, c'est important. Alors, c'est en cours, mais voilà. Vous priez pour elle, qu'elle ne soit pas trop seule. Et voilà, qu'on puisse venir tous ensemble, vraiment. Alors, je vous invite à lire dans Jacques, chapitre 4, et après, on retournera dans l'Apocalypse. Je vais essayer de ne pas tomber du pupitre. Alors, Jacques, chapitre 4. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous y réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et donc dans Apocalypse, chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors si j'ai lu le passage dans Jacques juste avant, c'est parce que ça parle de la séduction des richesses et que ce passage dans Apocalypse parle aussi de la séduction des richesses. Et j'aimerais qu'on se concentre sur le verset 17 où il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et le verset suivant, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Alors, je sais que nous parlons quand même assez fréquemment ici de l'Église persécutée, et c'est vrai que l'Église persécutée, elle a un avantage sur nous, et bien c'est qu'elle est éprouvée par le feu. Et peut-être une des plus grandes faiblesses de notre christianisme en France et en Occident, eh bien c'est que nous n'avons pas forcément une foi éprouvée par le feu. Et je crois que certains d'entre vous, alors inévitablement, on suit l'actualité, et on voit dans l'actualité, inévitablement, même peut-être ce n'est pas la place ici d'en parler, mais vous venez de voir, comme moi, eh bien, il y a eu récemment aux États-Unis l'élection de ce monsieur, hein, ce nouveau président. Alors, je ne vais même pas mentionner son nom. Et qui, malheureusement, eh bien, il a été élu, eh bien, en grande partie, il faut bien le dire, par des chrétiens qui se revendiquent du christianisme évangélique. Et c'est quand même quelque chose de surprenant, et je crois même que c'est quelque chose qui doit nous frapper de stupeur et de désarroi. Et quand il est dit dans Jacques, eh bien, que votre... On va reprendre dans Jacques exactement. Donc c'était dans Jacques, chapitre 4, verset 9. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et je sais que beaucoup de chrétiens, en particulier, alors en France, je crois, nous sommes beaucoup plus circonspects, mais beaucoup de chrétiens, en particulier aux États-Unis, se sont réjouis de l'élection de cet homme parce qu'ils voient en quelque sorte un sauveur, si on veut, mais ils voient comme quelqu'un qui va les protéger. Qui va les protéger de l'athéisme, qui va les protéger peut-être de l'islam ou autre. Mais je crois personnellement qu'il y a une grande illusion dans ces choses, probablement aussi grande que ce qu'était en train de vivre cette église de Laodicée, à moi-même qu'on considère ce texte comme un texte prophétique, ce que personnellement je fais. J'ai même lu des commentaires de chrétiens qui disaient, eh bien, c'est comme Cyrus, vous savez, Cyrus, qui a ce roi de Babylone qui a ramené Israël dans son pays. Et des chrétiens disaient, ah oui, mais il va accomplir cette prophétie, une personne qui prétendait avoir une prophétie, qu'il y aurait, dans les années à venir, un Cyrus qui ferait envers les chrétiens ce que ce roi babylonien avait fait envers Israël, et que cela amènerait un bienfait pour les chrétiens. Personnellement, je pense que c'est faux, mais je crois que c'est tout le contraire. Ou je crois même que cet homme pourrait être plus dangereux pour l'Église, et là je ne parle même pas du monde, mais il pourrait être plus dangereux pour l'Église par ses succès que par ses défaites. Et je crois fortement, très fortement, bien que depuis quelques années, nous vivons cette phase de l'histoire de l'Église qui est anticipée dans ces chapitres 2 à 3 de l'Apocalypse. Dans ces chapitres, nous est présentée cette Église. Et bien me douter que ce n'est pas forcément votre interprétation, mais c'est la mienne. Et je crois fortement que ces sept églises représentent sept périodes de temps de l'Église. Et je dirais même qu'elles représentent sept notes dominantes du témoignage de l'Église sur la terre. Je ne crois pas qu'elles représentent un groupe de chrétiens en particulier, ou une dénomination chrétienne en particulier, quoique ça peut se recouper un peu, mais pas à ce point-là. Mais je crois que ces sept églises représentent sept phases du témoignage de l'Église sur la tête, sept notes dominantes, ce qui est le plus visible, probablement. Et indéniablement, l'Église a commencé, après la mort des apôtres, à faire des compromis, et ça, on le trouve là-dedans. Après, il y a eu l'Église qui a subi des persécutions très fortes. Puis, si vous regardez avec moi au chapitre 2 et au verset 12, il y a cette lettre. Alors, c'est particulier puisque là, il s'adresse à un ange, à un messager de l'Église. Ça ne sont pas des lettres traditionnelles comme on voit les lettres de Paul. Il s'adresse à l'église de Pergame. Et Pergame, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Pergame, eh bien, ça veut dire celle qui est donnée en mariage. Dans le mot Pergame, il y a un mot grec qui a donné aussi gamie, monogamie, polygamie. Et Pergame, ça veut dire celle qui est donnée en mariage. Et pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église, eh bien après, il y a une phase terrible de persécution de l'Église. Vous pouvez lire, c'est ce qui parlait juste avant. Après cette phase terrible de persécution au IIe siècle, au IIIe siècle de l'Église, qui a été particulièrement forte, même au point où on pouvait penser que l'Église serait peut-être balayée, parce que beaucoup de gens reniaient la foi, des personnes établi, probablement renier la foi sous la persécution, eh bien il y a eu cet empereur romain qui s'appelle Constantin qui a décrété le christianisme une religion licite. Puis quelques années plus tard, il y a eu Théodose, un autre empereur romain, qui lui en a fait la religion d'État, c'est-à-dire tout le monde dans l'Empire romain devait être chrétien. Sous Constantin, c'était juste licite. Tout le monde pouvait être chrétien, il n'y avait plus de persécution. Mais sous Théodose, eh bien, c'est devenu une obligation dans l'Empire romain. Et peu à peu, le paganisme il a été mis de côté. En fait, il est rentré dans l'Église, il a été politiquement interdit, mais il est aussi rentré dans l'Église. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un peu au fil du temps, des gens qui prient Marie, qui prient les saints, des chrétiens qui se font des statues, des représentations, parce qu'il y a le paganisme qui s'est mêlé à l'Église. Et quand il est parlé de cette Église de Pergame, qui est donnée en mariage, eh bien, je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé. Cette Église, elle s'est mariée, elle s'est unie avec le monde. Et si vous lisez ces sept épîtres de l'Apocalypse, eh bien, il y a vraiment là, à partir de ce moment-là, on voit un mélange terrible qui se fait dans l'Église. Un mélange terrible. Puis, si on lisait tout, mais c'est un peu long, il y a cette Église de Thyatire, une Église où il y a de très bonnes choses, mais qui domine cette Église, il y a une fausse prophétesse. Et les commentateurs de ces épîtres ont vu dans cette fausse prophétesse, ont vu allégoriquement eh bien, la papauté. Et c'est intéressant, si vous regardez Thyatire, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. » Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est intéressant parce que cette église, elle est louée pour ses bonnes œuvres, ton amour, tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres. Et c'est vrai, quand on considère le catholicisme, surtout au Moyen-Âge, on voit beaucoup de belles choses qui ont été faites. Beaucoup d'hôpitaux qui ont été faits, des œuvres de charité. C'est l'époque des ordres monastiques, des franciscains et autres qui sont intervenus auprès des pauvres, qui ont fait beaucoup de bonnes choses. Mais il y a quelque chose qui est à reprocher, c'est que tous ces gens, ils laissaient perdurer la papauté au-dessus d'eux, et certains, si on prend saint François d'Assise ou autres, étaient des gens qui manifestaient une foi réelle, qui venaient en aide aux pauvres ou autres, et il y en a d'autres, il y en a bien d'autres. Il y avait quelque chose qu'ils ne voyaient pas, c'était cette papauté qui était corrompue, qui était dominatrice, et qui allait être dominatrice de plus en plus. Et je crois qu'il y a aussi là un accomplissement. Ensuite a succédé à cette période Sardes. Et là, on voit Sardes, ce qui est dit à cette église de Sardes. Donc au chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et même si ça n'est pas dans le grec, là il est mis entre parenthèses la parole, c'est probablement ça, comment tu as reçu et entendu, donc la parole probablement, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est intéressant parce que, ici, il est parlé des vêtements blancs. Et quand il est parlé des vêtements blancs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est souvent parlé de la justice de Christ. Et c'est quelque chose qui a été remis en lumière après, avec la réforme, c'était cette justice par la foi. Cette justice par la foi, c'est central du message des réformateurs. Mais en même temps, ils n'ont pas été jusqu'au bout dans d'autres domaines. Et tout cela a été basé sur le fait d'entendre la parole. Ils ont entendu la parole, ils se sont repentis, mais leurs œuvres n'ont pas été parfaites devant Dieu. Il y a des choses qui ont été laissées de côté. Il y a le baptême des enfants qui a été gardé. Il y a toute une doctrine sur la sainteté qui n'est pas développée chez les réformateurs. Il reste des compromis. Et finalement, les églises de la réforme, même si elles ont le nom de vivre, souvent, c'est ce qu'on peut constater quand on regarde l'histoire, et même encore aujourd'hui, souvent elles sont mortes. Comment est-ce que Christ peut dire à une église, tu as le nom de vivre, Tu as le nom de vivre, mais tu es morte. C'est assez incroyable. Et je crois vraiment qu'il y a là cette anticipation de la réforme. Puis qu'est-ce qui a succédé dans l'histoire de l'Église à la réforme? Bien, il y a tout un mouvement missionnaire qui est sorti finalement des églises de la réforme ou d'églises qui n'avaient plus ou moins pas adhéré. Donc avec par exemple les Moraves, avec John Wesley au XVIIIe siècle. Et il y a tout un mouvement de ce protestantisme qui était un peu mort, qui est sorti et qui a envoyé des missionnaires à travers le monde, qui a prêché l'évangile, qui a transformé l'Angleterre en bonne partie. Même les historiens le reconnaissent. Wesley était quelqu'un de très influent. Il y a William Wilberforce, qui était un chrétien engagé, qui a grandement contribué. Il a été le moteur de l'abolition de l'esclavage. Il y a eu tout cet élan missionnaire incroyable. Beaucoup de biographies ont été écrites sur cette période et sur la vie de ces hommes. Et quand on voit, cela n'est pas sorti souvent des églises riches, des églises établies, des églises d'État, mais c'est souvent venu de gens, eh bien, qui renonçaient à beaucoup de choses, qui renonçaient presque à tout, et qui ont accompli des choses incroyables. Et si vous lisez ce qui est dit à Philadelphie, il lui dit: « Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de... » Donc, chapitre 3. On peut prendre le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Philadelphie, c'est l'église qui garde la parole. Et à cette église qui garde la parole, Dieu a ouvert une porte. Et ceux qui se sont penchés sur les textes, eh bien, ils voient cette porte ouverte, la porte de la mission qui a été ouverte à cette église, et cette église qui a accompli cette période où tellement de choses ont été accomplies pour les missions. C'est le réveil missionnaire. Et même les historiens non chrétiens disent, bah oui, c'est William Carey, c'est le père des missions modernes, il est appelé à cette époque. Et personnellement, je crains malheureusement que, après toute cette belle période, eh bien, nous sommes peu à peu entrés dans cette période de Laodicée, cette dernière période avant que Christ ne vienne prendre son Église. Et cette Église, il est dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Mais vous allez me dire, c'est étonnant que Christ parle comme ça à son Église. C'est incroyable qu'il puisse parler comme ça à son Église. Mais regardez avec moi dans la première épître de Pierre. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. On va lire à partir du verset 12, 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? Si le juste est sauvé difficilement, vous allez me dire, ah, c'est pas possible. Être sauvé, c'est facile. Oui, mais là, il est dit, si le juste est sauvé difficilement. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est facile d'être sauvé. Vous savez, l'apôtre Paul a dit dans les Actes des Apôtres, c'était, je crois, sa dernière apparition à l'église d'Éphèse, il leur a dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est une spécificité occidentale que le salut soit facile. Non, c'est vrai, il est gratuit. Mais est-ce qu'il est facile ? Il y a un homme qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer qui a écrit un livre où il parle de la grâce bon marché. Voilà. Il dit la grâce c'est gratuit, mais ça n'est pas une grâce à bon marché. Voilà. Et quand Dieu nous donne le salut, eh bien, il nous donne quelque chose de gratuit, mais quelque chose qui fonctionne. Alors imaginez que je devienne riche et j'offre une Mercedes à Alexandre. Voilà, pour ses 18 ans, je lui offre une Mercedes. Et tiens, voilà les clés de la Mercedes. Ah, oh, super, c'est génial. Donc il se met au volant, il tourne la clé et rien du tout. Rien du tout. Après, je vais lui dire, mais ça va, tu es content avec ton cadeau, avec ta voiture ? Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Il va, il ouvre le capot et puis, pas de moteur. Donc c'est gratuit, hein, c'est gratuit, je l'offre gratuitement. Mais voilà, la grâce que Dieu nous offre, la grâce gratuite qu'il nous offre, est aussi une grâce transformante. Une grâce qui nous transforme. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits traités. Moi, j'en ai distribué quand j'étais plus jeune. Ces petits traités d'évangélisation. Je me souviens de ce petit traité. Je crois le titre, c'était « Le salut est gratuit ». Et dedans, il y avait dessiné une petite boîte, une boîte comme un cadeau dessus, avec un ruban, tout ça. Et il disait « Le salut est gratuit ». Et c'est vrai, le salut est gratuit et il est immédiat, les effets sont immédiats, mais ils se poursuivent aussi dans le temps. Et quelque part, Christ n'est pas une espèce de génie qu'on fait sortir de la boîte, puis après, j'avais lu aussi un très bon livre, pourtant c'est un très bon livre, mais je crois dedans il y avait une illustration qui était un livre qui s'appelait « L'essentiel du christianisme » de John Stott, c'est un très bon livre, mais dedans il disait quelquefois on peut mettre Dieu à la cave ou au grenier. Et c'est vrai quelque part, mais c'est faux aussi. Parce que si on essaye de mettre, oui on a reçu le salut, puis on a mis Dieu, voilà, je vais mettre un peu Dieu de côté à la cave ou au grenier. C'est vrai, mais c'est faux, parce que Dieu va sortir de la cave ou du grenier. Et Dieu n'est pas un espèce de petit génie, on ouvre la bouteille, on sort la bouteille. Non, Dieu nous domine, quelque part. Alors, il nous domine pour notre bien, mais il nous domine. Et même si c'est nous avons l'impression que nous dirigeons nos vies, mais non, finalement, c'est Dieu qui dirige nos vies. Et c'est vrai pour le monde, mais c'est vrai pour nous aussi. Et la Bible dit très clairement, si on met Dieu à la cave ou au grenier, il va nous arriver des trucs. Il va nous arriver des problèmes. Il va nous arriver des problèmes. Et Paul écrivait aux Galates, votre péché vous retrouvera. Et les décisions que l'on prend, les mauvaises décisions, elles ont des conséquences. Regardez Lot. Lot était probablement quelqu'un de sauvé, à son époque, hein, pour autant qu'il reprenait le salut, mais il nous est dit, Lot, ce juste qui tourmentait son âme, il était dans Sodome et il tourmentait son âme à cause des choses mauvaises qu'il voyait les sodomites faire. Mais il était sous un joug. Il avait fait exactement ce que Paul disait aux Corinthiens de ne pas faire. Aux Corinthiens, Paul disait, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Car quelle communion on peut prendre, si vous voulez. Deux Corinthiens, chapitre 6. De Corinthiens chapitre 6. Voilà, on va prendre à partir du verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large, et vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large, vous aussi. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. C'est incroyable. Paul disait aux Corinthiens, notre bouche s'est ouverte, notre cœur s'est montré large pour vous. Il priait pour eux. Il disait, mais si vous êtes à l'étroit au-dedans de vous, vous-même, vous ne priez pas pour vous-même. Vous ne priez pas pour vous-même. Nous prions pour vous, mais vous ne priez pas pour vous-même. Oui, quelque part, vous avez mis Dieu de côté. Et c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Et Lot était vraiment quelqu'un qui, malheureusement, eh bien, il s'était mis dans une situation où il était tourmenté, où il a perdu sa femme, il a perdu ses filles, ses filles, je ne crois pas qu'il avait de fils, ça m'échappe. Et c'est quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, malheureusement, je crois, une partie, parce qu'il y a des résistants, et personnellement, je leur tire mon chapeau. Christina me mentionnait un pasteur qui critiquait, il y en a quand même, qui critiquait ce qui se passait aux États-Unis. Je crois qu'ils se sont mis sous un joug étranger. Peut-être avec les meilleures intentions du monde, mais je crois que malheureusement, il y aura un prix très fort à payer. Et il y a une fausse religion qui existe aux États-Unis, en dehors de n'importe quel président. En dehors de n'importe quel président, et je crois que je l'ai déjà dit ici, il y a peut-être quelques années maintenant, il y a une fausse religion qui existe aux États-Unis. Cette religion est aussi fausse que l'islam. Quasiment aussi fausse. Cette religion, alors, elle s'appelle, les sociologues, en tout cas, elle est définie. Les sociologues, eux, ils font leur travail d'observer la société. Un sociologue, c'est quelqu'un qui observe la société. Et quelquefois, ils observent mieux que nous. C'est terrible. Quelquefois, ils observent mieux que nous. Les sociologues appellent ça la religion civile américaine. Qu'est-ce que la religion civile américaine? Et la religion civile américaine, c'est quand il est marqué sur les billets de 1 dollar, « In God we trust ». En Dieu, nous avons foi. La religion civile américaine, c'est quand il est dit dans la déclaration d'indépendance américaine, cette phrase très belle, « Dieu a créé tous les hommes libres afin, faut le dire en anglais, et il leur a donné des droits inaliénables, parmi lesquels « Life, liberty and... ouais. » La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Mais c'est formidable, c'est formidable. Bon, avec la poursuite du bonheur, on entre dans la zone un petit peu grise, d'accord? Donc la religion civile américaine, c'est ça. Et dans les années 50, si je ne me trompe pas, il y a le président Eisenhower. C'était un militaire, et puis les années 50, c'est l'époque de la guerre froide, de la lutte contre le communisme. Et donc les Américains ne voulaient pas devenir athées, ne voulaient pas devenir communistes. Et on les comprend, il y a de bonnes intentions derrière ça. Et donc, il y avait déjà ce qu'on appelle le serment d'allégeance à la nation. Et donc, tous les Américains devaient dire je prête serment à la nation américaine, une nation où il y a la justice pour tous. Et il a rajouté une nation under God. One nation, donc une nation unie, under God. Voilà. Mais bibliquement parlant, il n'y a pas de nation. There is no nation under God. Okay? Jean l'a dit très clairement. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous appartenons à Dieu, et le monde entier est sous la puissance du malin. Et le problème, c'est que cette religion civile américaine, et on ne dit pas que Christ bénisse l'Amérique. On ne dit pas que Christ bénisse le président. Que Jésus-Christ me vienne en aide pour mon mandat pendant 4 ans. C'est vrai que ça ferait plus bizarre déjà. Ça ferait déjà plus bizarre. Et en plus, c'est pour unir tout le monde. Donc, c'est pour unir les chrétiens, c'est pour unir les juifs, c'est pour unir les mormons, c'est pour unir les scientologues, c'est pour unir les musulmans, c'est pour unir les protestants libéraux qui nient la divinité de Christ ou l'inspiration de la Bible. C'est pour unir tout le monde dans la nation américaine et que ça ne vire pas vers l'athéisme. Voilà. Et donc, ce Dieu, il existe pour unir la nation américaine, pour créer du consensus. Et il est défini par quoi? Eh bien, il est défini par la politique américaine à court ou à long terme. Que Dieu bénisse quoi? En politique étrangère, que Dieu bénisse quoi? Et donc, d'un point de vue civilisationnel, c'est peut-être positif, mais eh bien, c'est se mettre, selon moi, sous un joug étranger. C'est se mettre sous un joug étranger. À côté de ça, il y a d'autres nouvelles choses qui ont surgi et qui, je le crois, accomplissent parfaitement ce qui est dit dans l'Apocalypse sur la Odyssée. La Odyssée, on pourrait reprendre, c'est cette église qui dit « Je suis riche ». Voilà, cette église dit « Je suis riche » au verset 17, « Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » C'est vraiment une chose qu'un chrétien ne devrait jamais dire, « Je n'ai besoin de rien. » On sait qu'on a besoin de Christ, on sait qu'on est satisfait par Christ. Mais je dirais, plus on est satisfait par Christ, plus on a envie. L'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. Dans Philippiens, il dit, on voit cette course de Paul, et il parle de cette justice qu'il a reçue, et il dit, mais j'oublie ce qui est en arrière et je me tourne vers ce qui est en avant à cause de la vocation de Christ, ça nous pousse en avant. C'est une grande satisfaction, on voit Paul est rempli de Christ, mais en même temps, il va en avant. Un chrétien ne dit jamais, je n'ai besoin de rien. Oui, j'ai tout en Christ. Mais en même temps, j'ai besoin de Christ chaque jour. Ça n'est pas quelque chose comme. Et là, je vais donner raison à ce pauvre pape Benoît XVI, où il disait, ah, le défaut des protestants. Et en même temps, je crois que Norman Meaton serait très d'accord avec moi aussi. Donc j'ai Norman Meaton et Benoît XVI ensemble. Il disait, le défaut des protestants, c'est qu'ils considèrent le salut comme quelque chose qu'on met dans sa poche. Voilà. Là, le salut, puis. Et c'est un peu vrai, quand même. Bon, probablement, ce n'est pas chez Luther, ce n'est pas chez Calvin, mais c'est une déviation. C'est une déviation. On ne dit jamais, je n'ai besoin de rien. Mais là, cette église qui dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Elle dit 3 fois, je. Et vous savez, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, enfin d'extraordinaire, pour le mal, dans l'église ces derniers temps, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Il y a ce courant théologique qui est venu, enfin deux courants théologiques, mais qui se rejoignent, qui s'appelle, mais vous dites bien, en 2000 ans de christianisme, ça n'est jamais arrivé. ou disons, je dirais, ça n'a jamais été formulé théologiquement. Il y a en 2000 ans de christianisme des gens qui, ben oui, il y a les papes en particulier, on sait qu'ils se sont enrichis, il y avait des papes qui menaient une vie de débauche ou tout ça. Mais quand même, ils sauvaient la face. Ils avaient un discours, le discours du catholicisme. Le discours du catholicisme, puis ben, il faut, c'est un discours très ascétique. Il faut renoncer au monde, il faut renoncer aux richesses, il faut... ça, c'est le discours du catholicisme. Et on n'a jamais eu en 2000 ans de christianisme ce qu'on a aujourd'hui et qui prend de plus en plus de place. Il prend de plus en plus de place. Alors nous voyons autre chose, mais malheureusement, les médias nous le montrent, et sûrement les médias le surexposent, et nous sous-exposons, c'est bien normal. Mais il y a ce qui s'appelle l'évangile de la prospérité. Ni les pères de l'Église, ni même les papes, parce que les papes, ils avaient un discours catholique, hein, et puis ils voulaient que les gens ne soient pas prospères, mais qu'eux soient prospères, donc ils tenaient un autre discours. Ni les réformateurs, ni John Wesley, ni qui vous voulez, n'a jamais prêché, eu cette idée de prêcher l'évangile de la prospérité. Parce que normalement, ça ne tient pas. Sur la Bible, ça ne tient pas. C'est pas possible de dire, ben voilà, vous êtes chrétien, Dieu va vous bénir abondamment et vous allez vous enrichir, etc., etc. Et dans le pire des cas, c'est le pire des cas, il y a ce monsieur Benny Hinn. Vous avez certainement entendu parler. Donc un des, disons, c'est le plus repérable certainement des faux prophètes de notre temps, parce que lui, il n'a peur de rien, quoi. Il n'a peur de rien, rien ne l'arrête. Et un jour, un journaliste, je crois que c'était peut-être d'un magazine chrétien, lui demandait, mais Monsieur Benin, vous n'avez pas de problème à rouler en Rolls-Royce? Benin, il a dit, mais écoutez, je vais quand même pas rouler en Honda. Et même si c'est l'exemple pire qui existe, malheureusement, cela existe. Et cela prend de plus en plus de place. Et à côté de ça, eh bien, il y a aussi l'évangile de la sanctification du moi. Christ est mort pour sanctifier votre moi, pour sanctifier votre ego. Alors, je ne serais pas capable de le développer ici, mais c'est... Et parfois, ils reprennent des théories psychanalytiques ou psychologiques parce qu'il faut se sentir bien dans son ego et dans son moi. Et ce n'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est « je suis mort avec Christ et Christ vit en moi ». Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, c'est tout le contraire. Ce n'est pas que notre moi... sanctifie. Non, c'est que nous mourons à nous-mêmes et Christ vit en nous. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et donc, en 2000 ans de christianisme, il n'y a jamais eu une telle chose. Et ici, dans ce qui, pour moi, est la dernière phase de l'Église qui est décrite, il y a cette Église qui dit « Je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Et Christ lui dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il lui dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ta nudité ne paraisse pas. Et là encore, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Encore une fois, en 2000 ans de christianisme, jamais il n'a été prêché dans les églises. Ben, on va faire une soirée, je ne sais plus comment c'était appelé, c'était une soirée dansante glamour, hein, d'accord, okay. Où il y a une telle volonté, il faut rendre l'évangile tellement accessible aux gens, il faut ben oui, que la marche soit moins haute. Non, le chrétien, quand même, je viens d'avoir lu dans ce livre qui parlait de la grâce de Dieu, et je comprends la réaction de ces gens, ce qui passe d'un excès à un autre. Je crois dans un livre qui parlait de la grâce, il disait, mais Voilà, si. Et en même temps, il faut faire attention aux excès. Mais, enfin, il parlait d'un vêtement d'une femme qui venait avec un vêtement en peau de panthère, vous savez, bien, bien serrant, tout ça. Il dit, mais c'est, ça pose pas de problème. Alors, je comprends. Je comprends que cela fait le contrepoids à un esprit de condamnation, à un esprit pharisaïque. Et encore là, je parle d'une situation américaine. Mais je crois qu'il y a des choses quand même qu'on ne veut pas faire en tant que chrétien. Il y a des excès dans lesquels on ne veut pas tomber. Et là, on est complètement tombé dans l'excès inverse. Il y a par exemple aux États-Unis, il y a malheureusement beaucoup d'exemples, mais cette dame qui est une militante pour la NRA. Alors la NRA, c'est quoi? C'est la National Rifle Association. C'est le lobby des armes aux États-Unis. Alors, il semblerait qu'elle aurait eu un genre de conversion après les attentats du 11 septembre 2001. Les tours jumelles se sont effondrées et elle s'est dit, mais c'est pas possible, le libéralisme américain, ça marche pas. Vous voyez ce qui se passe, les terroristes qui attaquent, tout ça. Et donc, elle serait devenue conservatrice. Donc, elle a commencé le homeschooling, elle a commencé toutes sortes de choses, sûrement à parler. Je crois que maintenant, je suis chrétienne, tout à fait. Et puis, elle a écrit un livre pour la défense des armes aux États-Unis. Donc, sur la couverture du livre, vous la voyez en tenue bien, je ne peux pas dire autrement, bien aguichante, on va dire, avec son, c'est pas la Kalachnikov aux États-Unis, hein, c'est le M16, je crois, avec son M16. Et voilà, quoi. Mais non, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Le discernement. Collier pour oindre tes yeux, discernement. Les chrétiens, malheureusement, sont en train de perdre leur discernement par rapport à ce qu'est un chrétien et ce que n'est pas un chrétien. Ce que peut faire un chrétien sans se sentir coupable, et ce qu'il peut faire aussi, mais en se sentant très coupable. Et il y a cette ligne de démarcation qui devient de plus en plus floue. Et c'est quelque chose de très grave. Et à cette église, eh bien Christ dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et c'est un verset, je crois, que Billy Graham ou d'autres évangélistes l'ont employé hein, pour appeler les gens à la conversion. Mais en fait, on sait bien, c'est un verset qui s'adresse à une église. Parce que Christ, il est dehors de cette église. Il est dehors de cette église. Et je crois que ces personnes, beaucoup de ces personnes, sont dans la même situation qui est décrite dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, vous pouvez prendre avec moi. Il dit au verset 4, où Paul a parlé d'une situation un peu similaire, mais c'était par rapport aux Juifs qui s'étaient convertis en grand nombre hein, au premier siècle. Il dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener une nouvelle fois à la repentance. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour lesquels elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Et ainsi, elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finie par être brûlée. Vous savez, la situation de ces personnes dont nous avons parlé, elle est pire que la situation de n'importe qui d'autre sur la terre. Et Christ a dit, il a dit très clairement, à celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. À Capernaum et aux autres villes où Christ avait fait beaucoup de miracles, il a dit, si les miracles qui avaient été faits en votre sein avait été fait à Sodome, il y a longtemps qu'il se serait repenti avec le sac et la cendre. Et il a très clairement dit que, oui, plus on a reçu de lumière, plus le jugement est terrible. Je crois très clairement que le jugement pour Saddam Hussein sera moins fort que le jugement pour beaucoup de personnes qui ont bombardé Saddam Hussein. Ou même peut-être pour l'homme qui a ordonné de destituer. Voilà. Donc nous, je crois vraiment que nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là. Et certainement, cela doit quelque part modifier notre témoignage dans le sens où nous ne pouvons pas avoir un témoignage superficiel. Nous devons avoir un témoignage vraiment patient envers les personnes du monde, parce qu'ils sont dans la confusion, et ils vont être de plus en plus dans la confusion, c'est quasiment certain. On se dit, mais qu'est-ce que c'est l'Évangile? Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Nous avons besoin de montrer Christ, et j'allais dire, c'est difficile. En fait, non, c'est pas difficile, il faut laisser Christ vivre en nous. Mais il faut vraiment avoir le courage d'être solidaire, mais en même temps de ne pas être solidaire. D'être comme dans ces personnes que Jacques décrivait, hein, que votre rire se change en larmes. Il y a des choses qui ne doivent pas nous réjouir. Sûrement, nous aurons l'occasion de nous en reparler, mais il y a des choses qui doivent nous inquiéter, qui ne doivent pas nous réjouir, et il y a des victoires qui sont en fait des défaites. Et nous devons nous réjouir en Christ et dans sa grâce et dans l'Évangile, mais l'Évangile ne s'imposera jamais, jamais, par les méthodes du monde. Et ça, nous pouvons en être sûrs. Christ veillera à ce que son Évangile ne s'impose jamais de cette manière, car c'est en fait impossible. Christ a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et le problème, c'est que nous assistons à une église qui refuse de se charger de sa croix. Une église qui se refuse de se charger de sa croix. Une église qui refuse de se charger de sa croix, ça n'est pas l'église de Christ, malheureusement.